Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
Et avec Franz-Olivier Gisbert, comme tous les jeudis sur notre antenne. Bonjour.
Bonjour Renaud.
Dans quelques heures, Franz, dans quelques heures, nous saurons si nous avons un vote ou un 49-3 qui sera dégainé du côté de l'Assemblée nationale. On compte, on recompte du côté de la majorité présidentielle.
Oh, le suspense.
Le suspense est énorme. Il y a encore une réunion ce matin du côté de l'Élysée. On en parlait avec Christophe Barbier, on en parlait avec Guillaume Tabar. Ouais. Petite question, Franz. Emmanuel Macron a-t-il le goût du risque? Et si oui, jusqu'où?
J'espère. J'espère parce qu'en fait un vote ce serait comment dire je pense que ce serait bien vu. C'est-à-dire bon pour l'instant il donne l'impression de procrastiner, de se tâter, un to be or not to be, enfin il hésite entre le 49-3 et puis le vote pur et simple. Le vote pur et simple, bon, ça met chacun en face de ses responsabilités, mais en même temps et puis attention, ça arrive à un moment où quand même le mouvement s'essouffle et s'essouffle gravement. Il y a que la CGT pour nous faire croire qu'il y a plus d'un million de personnes qui ont défilé hier. On voit très bien, les manifestations sont de plus en plus maigrelettes. Et puis, il y a l'histoire de la commission mixte paritaire, après des débats qui sont quand même très très bien passés au Sénat, c'est autre chose. Hein, quand vous n'avez pas la NUPES dans une assemblée, vous avez vu comment c'est tenu, quoi. Ça ressemble à quelque chose. Donc, ça va plutôt dans le sens du vote. Mais c'est vrai que c'est risqué. Quand on fait les comptes, hein, on en parlait tout à l'heure avec l'ami Guillaume Tabar, c'est plus que serré, quoi. Il y a un risque. Enfin, la politique, en même temps, c'est pas mal. C'est bien le risque. Alors après, c'est vrai que j'entends d'ici, si ça passe pas, les perroquets du macronisme nous dire que si le texte a été blackboulé, c'est un gros échec pour LR. Bon, ça se défense de rire. Et puis, les perroquets qui osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les perroquets de la NUPES, ils vont nous dire que si le gouvernement a recours au 49-3, c'est la dictature, hein. Bon, quand on entend toutes ces bêtises, je pense qu'il est temps que ça se termine et puis qu'on passe à autre chose, 49-3 ou pas.
Voilà, mais on sent et on a bien compris que vous aviez plutôt envie d'un vote. Franz,
oui, mais en sachant que c'est quand même très risqué.
Franz, qui pour vous dans cet épisode des retraites est sorti du lot? Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, Philippe Martinez, Laurent Berger, Olivier Dussopt? Est-ce qu'il y a un personnage que vous sortez un petit peu plus du lot ou qui a marqué finalement cet épisode de la réforme des retraites?
Ça, c'est une question vache. Hein. Je reconnais bien votre vice à quelques heures du dénouement.
Je vous remercie.
Oui, c'est ça. Mais bon, clairement, c'est un vote, par exemple, et que la majorité l'emporte, le grand vainqueur, c'est Macron.
Ouais. Hein.
Si un 49-3, il n'y a pas de vainqueur, vraiment. Et de toute façon, déjà, on peut dire qu'il y en a un, c'est Laurent Berger.
Laurent Berger,
pardon. Oui, je pense, le patron du premier syndicat.
Elle n'était pas si vicelarde que ça, ma question.
Oui, c'est le patron du premier syndicat français. Je précise ça pour mes confrères qui ne le savent pas, parce qu'ils font toujours parler à la CGT. J'ai remarqué, il faut pas même oublier que la CFDT est devant dans les élections professionnelles. Et il s'est posé en opposant sérieux, et je veux dire d'une certaine manière, donc en principal opposant, parce qu'on peut pas dire que les autres étaient très sérieux. Et il est encore relativement jeune, hein, 54 ans, il devra quitter bientôt son poste de secrétaire général de la CFDT, avant la fin de son mandat, en 2026, pour amorcer une transition en douceur. Et il y a un courant à gauche, parce que j'ai remarqué, j'ai vu des gens ces dernières semaines, ça me fascinait, d'ailleurs, qui se dessine pour orienter Berger vers la politique, parce qu'il y a besoin de quelqu'un à gauche. Je veux dire, la vraie gauche. Pas la fausse gauche de la NUPES, enfin, qui est en fait une extrême gauche. Le PS, quand même, c'est grave ce qui est en train de se passer au PS. Vous avez bien vu qu'il est en train de mourir. Hein, c'est vrai que Olivier Faure, son patron, c'est moitié croque-mort, moitié caniche de Mélenchon, c'est pas très bien, enfin, c'est un être un peu hybride.
Vous étiez encore un copain ce matin.
Et vous avez vu la dernière, c'est extraordinaire, son dernier accord, il a cassé, le dernier événement au PS, c'est qu'il a cassé l'accord, Olivier Faure, avec son opposant Nicolas Meyer-Rossignol, parce que il y a un gros désaccord entre eux sur la candidate qu'il faut soutenir à la législative partielle de l'Ariège à la fin du mois. Hein, vous avez vu, le maire de Rouen, qui s'appelle Meyer-Rossignol, donc, lui, il soutient la candidate du PS, naturelle, Martine Froger, et Olivier Faure, je suppose d'ailleurs s'il est socialiste ou LFI, on ne sait plus, et lui soutient la LFI Bénédicte Taurine. Et au Conseil national du PS, personne n'en parle d'ailleurs, c'est bizarre, mais Olivier Faure a fait la purge, hein. Allez hop, il a liquidé tous les opposants, il est obligé de garder premier secrétaire délégué Nicolas Meyer-Rossignol, puisque c'était leurs accords, mais enfin, tous les autres sont virés, c'est une forme de purge, mais personne n'en parle, mais je sais pas très bien d'ailleurs ce que font les confrères. Alors, si vous voulez, vous avez évidemment toute une partie des médias qui sont complètement toujours extatiques devant les films, enfin, c'est pas la gauche, ça, vous voyez, vous imaginez Panot, Bompard, Coquerel dans une sorte de gouvernement. On n'est pas en 1793. C'est pas la terreur. On dirait la famille Adams, si vous voulez. Mais je veux pas en faire des copains, je sais bien, mais c'est vraiment la famille Adams. C'est un mélange de croque-mitaine, de marionnettes. Enfin, on n'est pas du tout dans la politique. Et je pense que la démocratie française, elle a besoin d'une vraie gauche.
Et là, c'est Laurent Berger qui, pour vous, qui vient, alors parce que le syndicalisme,
c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi.
Le syndicalisme et la politique, c'est quand même deux choses différentes.
Ben oui, c'est un métier. Alors donc, il y a d'autres candidat pour recréer cette gauche, parce que ouais. la gauche a disparu, c'est devenu l'extrême gauche en France, il faut bien voir. Quand on se compare par exemple à ce qui se passe à l'étranger, hein, par exemple à tout près de chez nous, en Espagne ce sont des socialistes qui gouvernent depuis longtemps, en Portugal, on regarde au Danemark, je parle pas en Allemagne, le chancelier est social-démocrate. Nous on est je pense que la France est sur deux pieds. Pour avancer en démocratie, il faut une gauche et une droite. C'est comme ça que ça marche. Et là, on voit très bien que on est coincé, quoi, avec une extrême gauche qui est inéligible. Enfin, si elle est élue, mais je sais pas ce qui va se passer dans ce pays. On sait très bien, vu la violence qui arrive, vu les discours, vous entendez, Louis Boyard, la boyardisation du système. Enfin, cette espèce d'appel à l'insurrection permanente, ça ne peut pas le faire. Et cette gauche, elle est devenue, vous savez, c'est le mouvement sinistre gire que décrivait le professeur Albert Thibaudet. Oh, j'adore celui-là. C'est le grand politologue de la Troisième République, peut-être le premier politologue. Sinistre gire, ça vient du mot sinistra, la gauche. Et il disait, mais c'est très bien expliqué, que la gauche a toujours tendance à devenir de plus en plus à gauche. Enfin, en tout cas, en France, c'est clair que ça se voit. Et donc, elle est toujours remplacée par un parti encore un peu plus à gauche, mouvement sinistre gire. C'est absolument génial comme concept. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque la gauche, apparemment, ce serait devenu la LFI. Donc, il faut réagir. Alors, il y a Bernard Cazeneuve qui a monté sa petite boutique, là.
Ça prend pas vraiment.
Non, ça va. Ça c'est clair. Bon, il y a François Hollande qui a quand même un atout, c'est qu'il est très populaire. Hein, on voit bien, il est parmi les personnalités les plus populaires en France aujourd'hui. Hein. Bon, il y a Édouard Philippe, mais enfin personne.
Oui, mais
est-ce
qu'il est populaire justement parce qu'il est plus au pouvoir, François Hollande?
Ah ben c'est clair. Mais ces sondages, on se méfie toujours parce que c'est toujours Édouard Philippe. Il y a que les médias pour croire que Édouard Philippe sera le prochain président de la République. Non, mais c'est quand même une vaste blague. Oui,
attention,
il succède.
Si jamais il le devient, on va vous repasser l'extrait hein, jusqu'à la fin de vos jours.
Il succède. Non, mais il succède à Jacques Lang, Bernard Kouchner, etc. Bon, en général, on met toujours tout en haut celui dont on est sûr qu'il n'arrivera jamais à la présidence. Mais enfin, Hollande a des atouts. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, il est très copain avec Berger. Mais Berger, bon, ça peut le faire. Alors, c'est vrai qu'il paraît qu'il ne peut pas. Mais, vous savez, l'appétit vient en mangeant.
Oui.
Et puis, pour l'instant, il est encore peut-être loin des échéances d'ici. Mais d'ici un an ou deux, là, quand il faudra songer à partir, à quitter la CFDT, il y a peut-être des gens qui l'attendent. Ça peut le faire. Voilà,
ça peut le faire,
et je pense que ce serait bon pour la gauche, parce que on voit à quel point on souffle, la démocratie française souffre aujourd'hui d'avoir comme opposition. Bon, il y a d'une part évidemment le Rassemblement National qui s'est normalisé, c'est clair, mais de l'autre côté il y a une gauche qui est devenue en fait une extrême gauche et qui elle s'est radicalisée, hystérisée au point d'être ridicule.
Franz, vous connaissez la chanson « Et maintenant, que vais-je faire ?»
Oui.
Eh bien justement,
Qu'est-ce qu'il chante bien ?
Ben oui, c'est magnifique. J'aurais pu faire une carrière. Emmanuel Macron, justement, quel défi désormais pour lui ?
Ben, écoutez, moi je suis, je pense que là, on saura évidemment ce soir si c'est une victoire, si c'est une grande victoire. Ça peut être une grande victoire. Si ça passe, c'est une grande victoire de Emmanuel Macron.
Vous pensez que ça fera oublier quand même toutes ces semaines où le gouvernement a changé 4 ou 5 fois de communication, de braquet, ça fera oublier les hésitations de Dussopt? Vous pensez que même un vote à 3-4 voix près, ça sera une grande victoire?
Ouais, c'est ça la politique.
Ouais.
C'est qu'on oublie. On va oublier tout ça et il restera dans l'histoire que c'est une grande victoire de Macron. Bon, le 49-3, ce sera pas une victoire. Mais enfin, ça passera.
Oui.
Et puis c'est pas 49.3, c'est pas la dictature, hein. Ça a été utilisé, c'est dans la Constitution. Enfin, je vois pas où est le problème. C'est un instrument pour gouverner. Ça a été créé pour ça. Donc toute cette histoire autour de, enfin c'est insensé. C'est une invention qui date d'ailleurs du temps de Valls. Vous vous souvenez qu'il utilisait beaucoup le 49.3, beaucoup moins que Rocard en son temps. Mais là, les frondeurs avaient décidé que c'était antidémocratique. Enfin, il y a une espèce de puis les gens finissent par croire. Puis les médias vous expliquent ça tous les matins. Mais non, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On voit bien, on va rentrer dans une nouvelle phase. Alors, je suis toujours un petit peu inquiet quand j'entends parler de réforme constitutionnelle, hein, parce que avec tous les problèmes qui se posent aujourd'hui, on nous parle de réforme constitutionnelle. Alors, il y a l'idée de réintroduire, vous savez, l'IVG, par exemple, dans la Constitution. Je vois pas très bien ce que ça change, mais bon, pourquoi pas. Mais enfin, c'est vraiment pas une priorité. Et la réforme constitutionnelle, notamment, il parlait de réintroduire le septennat. Puis il y a des changements même politiques importants qui seraient en cours, enfin qui seraient à l'étude, notamment de faire des petites régions. Ouais. Ça c'est typiquement macroniste, c'est-à-dire que surtout faut pas que la France des provinces existe, la France des régions, hein, puisque voilà vous avez des grandes régions et ces grandes régions.
France, il y a pas d'autres priorités.
Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train, ce que je veux dire.
Oui,
alors,
il
m'enlève le pain de la bouche, Renaud Blanc. Mais bien entendu, mais ça n'a aucun intérêt et ça ressemblera, disons, à des règlements de compte internes. Je vois quand on dit, j'étais en Auvergne par exemple.
Ouais.
Ce week-end, et je vois en Auvergne, ils sont affolés à l'idée qu'on les retire de Rhône-Alpes. Tout ça pour emmerder Laurent Wauquiez, évidemment. Bon, l'idée de faire, évidemment, d'enlever l'Auvergne, mais ils sont paniqués, ils veulent pas aller avec le Limousin, ils sont très contents, ils nous disent, ils disaient, moi j'ai entendu de nombreux, et puis qui n'étaient pas forcément des gens de droite, il y avait des gens de gauche, c'était très mélangé, et qui disaient, mais enfin, ça va nous tirer vers le bas, ils sont littéralement affolés. Tout ça, c'est idiot, c'est pour éraser la politique, la diminuer, puisque on voit très bien que les régions, avec ces grandes régions, les présidents de régions ont pris de l'existence, et c'est très bien. Il faut des contre-pouvoirs, et il faut les organiser. Donc, évidemment, mais c'est là, votre interjection, là, sur les priorités. Ben, les priorités, il y en a tellement. Redémarrage du nucléaire, il faut surtout redonner confiance à EDF, cette grande entreprise nationale qui a été massacrée. Politique forte de réindustrialisation, hein, vous avez vu les derniers chiffres encore du commerce extérieur. Bon, c'est quand on a 163 milliards, 500 millions de déficit du commerce extérieur en 2022, c'est un énorme problème. Il faut se retrousser les manches et travailler là-dessus. Politique de désendettement, hein, on va pas reparler toujours de ça, mais enfin c'est vrai, désendettement c'est important. Vous savez pourquoi? Parce que à l'heure où les marchés financiers sont fébriles, on le voit avec cette affaire du Crédit Suisse qui est quand même effrayante. Enfin, c'est l'ami d'habitude nous raconter ça très bien, c'est que en quelques secondes, on a l'impression, en quelques minutes, vous avez des entreprises comme ça qui peuvent littéralement s'effondrer. Et puis, on va parler aussi de l'immigration. C'est très bien ça, il faut essayer de tout faire, de créer, enfin comment dire, d'inventer en France un contrôle de l'immigration et puis surtout un accueil de l'immigration, un peu comme en Allemagne. Bon, alors évidemment là le problème c'est toujours Macron et ils sont en même temps, puisque vous avez vu, bon il y a le projet Darmanin du SOP là qui est en cours, et puis en même temps bon bah on nomme à la tête de la section de l'intérieur du Conseil d'État la plus importante Jean Thuot, qui est un immigrationniste un peu échevelé, et on sait très bien que c'est le Conseil d'État qui fait la politique de l'immigration en France. Il serait temps que la politique reprenne ses pouvoirs et ses attributions. C'est à la représentation nationale de décider ce qu'il en est de l'immigration. Ça n'est pas un comité théodule de juges du Conseil d'État ou de soi-disant magistrats de décider ce que doit être la politique de l'immigration. C'est à la représentation nationale qui est incarnée par Macron et sa majorité présidentielle.
Ouais, moi, je vais vous dire un truc, je vous vois bien Matignon, vous, dans quelques temps, France, comme ça j'irai vous interviewer au coin du feu, hein, tous les jeudis matins, ça sera sympa. On a dépassé le temps, mais juste en quelques secondes, on est à 6 mois de la mort, 6 mois, on célèbre aujourd'hui les 6 mois de la mort de Mahsa Amini.
Oui.
Vous voulez avoir une pensée
en 10
secondes
à 22
sur
ans.
Les Iraniens.
Bah oui,
pour
oui
les
sur les Iraniens, je peux pas m'empêcher de parler des Ukrainiens quand même, parce que les Ukrainiens, vous avez vu, 16 000 enfants enlevé par les Russes pour être russifié en Russie. Enfin, c'est absolument abject. Les 160 000 Arméniens aussi, coincés toujours dans l'Artsakh, qui sont en... Enfin, les Azéris, enfin, toute cette espèce de pouvoir abject fait tout pour qu'ils meurent de froid, de faim, etc., dans cette poche où ils sont réduits, quoi. Et puis, enfin, effectivement, ces femmes iraniennes qui retirent partout leur voile et qui sont, ils sont pas tellement soutenus en France. Ben j'attends un peu ce que fait l'extrême gauche. Ils adorent manifester. On a l'impression que ça les gêne. C'est vrai qu'eux, ils veulent envoiler les femmes. Alors ça, je termine là-dessus.
Oui.
Mon ami, l'écrivain algérien Boualem Sansel, a une très bonne formule. Et à propos de ces gens-là, je parle de LFI et de la NUPES. Ça les vise particulièrement. Mais il dit, j'ai dit toujours, mais pourquoi tu vis à Alger? Pourquoi tu vis là-bas? Il me dit, ben parce que c'est beaucoup plus sécure. Attends, moi je veux pas vivre en France. Les pires islamistes, dit-il, ils sont en France. Ils sont pas en Algérie. Voilà, ça c'est une petite réflexion qu'on pourrait avoir.
Franz-Olivier Gisbert dans Esprit Libre qui s'est fait encore beaucoup de copains ce matin sur notre antenne. Merci Franz, il est 8h59. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel.